L'inflation permet-elle de redistribuer les richesses? Reprenons le raisonnement. Nous avons noté que l'impôt exceptionnel sur le capital constitue la meilleure façon de réduire une dette publique importante. Il s'agit de loin de la méthode la plus transparente, la plus juste et la plus efficace. À défaut, il est possible d'avoir recours à l'inflation. Concrètement, la dette publique étant un actif nominal, c'est-à-dire dont le prix est fixé à l'avance et ne dépend pas de l'inflation, et non un actif réel, c'est-à-dire dont le prix évolue en fonction de la situation économique, en général au moins aussi vite que l'inflation, comme le prix des actifs immobiliers ou boursiers. Il suffit d'avoir un peu d'inflation supplémentaire pour réduire très fortement la valeur réelle de la dette publique. Par exemple, avec une inflation de 5% par an plutôt que de 2%, au bout de 5 ans, la valeur réelle de la dette, exprimée en pourcentage du PIB, serait réduite de plus de 15% supplémentaire, toute autre chose égale par ailleurs, ce qui est considérable. Une telle solution est extrêmement tentante. C'est ainsi qu'ont été réduites la plupart des dettes publiques importantes dans l'histoire, notamment au cours du XXe siècle, dans l'ensemble des pays européens. Par exemple, en France et en Allemagne, l'inflation a été respectivement de 13% et de 17% par an en moyenne de 1913 à 1950. C'est ce qui a permis à ces deux pays de se lancer dans leur reconstruction avec une dette publique insignifiante au début des années 1950. L'Allemagne, en particulier, est de loin le pays qui a le plus massivement recours à l'inflation et également à l'annulation pure et simple de créances, pour se débarrasser de ses dettes publiques au cours de son histoire. Outre l'effet de réduction de l'inflation, une part importante des dettes allemandes a été purement et simplement annulée par les Alliés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ou plus exactement repoussée à une éventuelle unification allemande et jamais remboursée depuis. Si l'on met de côté la Banque centrale européenne, qui aujourd'hui est de loin la plus réticente à cette solution, ce n'est pas un hasard si toutes les grandes banques centrales de la planète, qu'il s'agisse de la Federal Reserve américaine, de la Banque du Japon ou de la Banque d'Angleterre, tentent actuellement de relever leur cible d'inflation plus ou moins explicitement, et expérimentent pour cela diverses politiques dites non conventionnelles, nous y reviendrons. Si elles y parviennent et si par exemple leur niveau d'inflation passe à 5% par an plutôt que 2%, ce qui n'est pas gagné, ces pays réussiront de fait à sortir du surendettement beaucoup plus rapidement que les pays de la zone euro, dont les perspectives économiques paraissent gravement assombries par l'absence d'issue visible à la crise de la dette et le manque de clarté des différents pays sur leur vision à long terme de l'union fiscale et budgétaire de l'Europe. De fait, il est important de bien comprendre que sans prélèvement exceptionnel sur le capital et sans inflation supplémentaire, cela peut prendre plusieurs décennies pour sortir d'un niveau d'endettement public aussi élevé que celui en vigueur actuellement. Pour prendre un cas extrême, supposons une inflation rigoureusement nulle, une croissance du PIB de 2% par an, ce qui dans le contexte européen actuel n'a rien de garanti, car la rigueur budgétaire a un impact récessif évident, au moins dans le court terme, et un déficit budgétaire limité à 1% du PIB, ce qui en pratique implique un excédent primaire important compte tenu des intérêts de la dette. Alors par définition, il faut 20 ans pour réduire l'endettement public, exprimé en pourcentage du PIB, de 20 points. Si la croissance est parfois inférieure à 2% et le déficit parfois supérieur à 1%, alors cela peut prendre facilement 30 ou 40 ans. Cela prend des décennies d'accumuler du capital, cela peut prendre également très longtemps de réduire une dette. L'exemple historique le plus intéressant d'une cure prolongée d'austérité est celui du Royaume-Uni au XIXe siècle. Comme nous l'avons noté dans la deuxième partie de ce livre, chapitre 3, il aura fallu un siècle d'excédent primaire, environ 2-3 points de PIB par an en moyenne de 1815 à 1914, pour se débarrasser de l'énorme dette publique issue des guerres napoléoniennes. Au total, au cours de cette période, les contribuables britanniques ont versé plus de ressources en intérêts de la dette qu'ils n'en ont consacré à leurs dépenses totales d'éducation. Il s'agit d'un choix qui était sans doute dans l'intérêt des détenteurs des titres de dette. Mais il est peu probable que ce choix était dans l'intérêt général du pays. Il n'est pas interdit de penser que le retard éducatif britannique a contribué au déclin du Royaume-Uni au cours des décennies suivantes. Il s'agissait certes d'une dette supérieure à 200% du PIB, et non d'à peine 100% comme actuellement, et l'inflation au XIXe siècle était quasi nulle, alors que tout le monde admet aujourd'hui une cible de 2% par an. On peut donc espérer que l'austérité européenne pourrait se contenter de durer 10 ou 20 ans au minimum, et non pas un siècle. Ce serait tout de même bien long. On peut légitimement considérer que l'Europe a mieux à faire pour préparer son avenir dans l'économie monde du XXIe siècle que de consacrer plusieurs points de PIB par an d'excédent primaire à sa dette publique, alors même que les pays européens consacrent généralement moins de 1 point de PIB à leurs universités. Cela étant posé, il faut également insister sur le fait que l'inflation n'est qu'un substitut très imparfait à l'impôt progressif sur le capital et peut comporter un certain nombre d'effets secondaires peu attractifs. La première difficulté de l'inflation est le risque d'emballement. Il n'est pas sûr que l'on sache s'arrêter à 5% par an. Une fois la spirale inflationniste lancée, chacun veut voir les salaires et les prix qui le concernent évoluer de la façon qu'il l'arrange, et il peut s'avérer très difficile de stopper une telle mécanique. En France, l'inflation dépasse les 50% par an de 1945 à 1948, pendant 4 années consécutives. La dette publique est réduite à peu de choses, beaucoup plus radicalement que par le prélèvement exceptionnel sur les patrimoines appliqué en 1945. Mais des millions de petits épargnants sont définitivement ruinés par l'inflation, ce qui contribuera à aggraver une endémique pauvreté du troisième âge pendant les années 1950. En Allemagne, les prix sont multipliés par 100 millions entre le début et la fin de l'année 1923. La société et l'économie ressortent durablement traumatisées par cet épisode, qui continue sans nul doute d'influer sur les perceptions allemandes de l'inflation. La seconde difficulté est que l'inflation perd une bonne partie de ses effets souhaités dès lors qu'elle devient permanente et anticipée, en particulier ceux qui prêtent à l'État exigent un taux d'intérêt plus élevé. Il reste certes un argument en faveur de l'inflation. Par comparaison à l'impôt sur le capital, qui, comme tous les impôts, conduit inévitablement à soustraire des ressources à des personnes qui s'apprêtaient à les dépenser utilement, pour consommer ou pour investir, l'inflation a le mérite, dans sa version idéalisée, de ponctionner principalement ceux qui ne savent pas quoi faire de leur argent, c'est-à-dire ceux qui ont conservé trop de liquidités sur leurs comptes bancaires, sur des comptes et livrets peu dynamiques, ou sous leur matelas. Sont épargnés tous ceux qui ont déjà tout dépensé, ceux qui ont tout investi dans des actifs économiques réels, immobiliers ou professionnels, ou mieux encore, ceux qui sont endettés, dont la dette nominale est réduite par l'inflation, ce qui leur permet de repartir plus vite encore vers de nouveaux projets d'investissement. Selon cette vision idéale, l'inflation serait en quelque sorte une taxe sur le capital oisif et un encouragement au capital dynamique. Ce point de vue contient une petite part de vérité et ne doit pas être totalement négligé. Mais comme nous l'avons vu en étudiant l'inégalité des rendements en fonction du capital initial, l'inflation n'empêche en rien les patrimoines importants et bien diversifiés d'obtenir un très bon rendement, indépendamment de toute implication personnelle, simplement du fait de leur taille. Au final, la vérité est que l'inflation est un outil relativement grossier et imprécis dans son ciblage. Les redistributions des richesses induites vont parfois dans le bon sens et parfois dans le mauvais. Certes, si le choix est entre un peu plus d'inflation ou un peu plus d'austérité, il faut sans doute préférer un peu plus d'inflation. Mais la vision parfois exprimée en France selon laquelle l'inflation constituerait un outil quasiment idéal de redistribution, une façon de prendre de l'argent aux rentiers allemands et de forcer la population vieillissante qui prospère outre-Rhin à faire preuve de davantage de solidarité, entend-on souvent, est excessivement naïve et fantasmatique. Une grande vague inflationniste européenne aurait en pratique toutes sortes de conséquences non désirées sur la répartition des richesses, en particulier au détriment de personnes modestes en France, en Allemagne et dans tous les pays. À l'inverse, les détenteurs de patrimoine immobilier et boursier important seraient largement épargnés des deux côtés du Rhin et partout ailleurs. Qu'il s'agisse de réduire les inégalités patrimoniales sur une base permanente, ou bien de réduire une dette publique exceptionnellement élevée, l'impôt progressif sur le capital est en règle générale un bien meilleur outil que l'inflation. Que font les banques centrales ? Afin de mieux comprendre le rôle de l'inflation, et plus généralement le rôle des banques centrales dans la régulation et la redistribution du capital, il est utile de sortir un peu du cadre de la crise actuelle et de remettre ces questions dans une perspective historique plus longue. À l'époque où l'étalon or était la norme dans tous les pays, c'est-à-dire jusqu'à la Première Guerre mondiale, le rôle des banques centrales était beaucoup plus réduit qu'aujourd'hui. En particulier, leur pouvoir de création monétaire est fortement limité dans un tel système par l'étendue du stock d'or et d'argent. L'une des difficultés évidentes est précisément que l'évolution générale des prix dépend avant tout des hasards des découvertes aurifères et argentifères. Si le stock d'or mondial est stationnaire et que la production mondiale s'accroît fortement, alors le niveau des prix doit baisser continuellement. Une même masse monétaire sert à échanger une production plus importante, ce qui en pratique soulève des difficultés considérables. Si l'on fait subitement de grandes découvertes dans l'Amérique hispanique au XVIe-XVIIe siècle ou en Californie au milieu du XIXe siècle, les prix peuvent monter en flèche, ce qui crée d'autres types de problèmes et des enrichissements indus. Tout cela n'est pas très satisfaisant et il est tout à fait improbable que l'on en revienne un jour à un tel régime. L'or, cette relique barbare, disait Keynes. Mais à partir du moment où l'on supprime toute référence métallique, on voit bien que le pouvoir de création monétaire des banques centrales devient potentiellement infini et doit donc être sérieusement encadré. C'est tout le débat sur l'indépendance des banques centrales qui est source de nombreux malentendus. Retraçons-en rapidement les étapes. Au début de la crise des années 1930, les banques centrales des pays industriels adoptent une politique extrêmement conservatrice. À peine sorties de l'étalon or, elles refusent de créer les liquidités nécessaires pour sauver les établissements financiers en difficulté, d'où des faillites bancaires en série qui aggravent terriblement la crise et plongent le monde vers l'abîme. Il est important de bien comprendre l'ampleur du traumatisme causé par cette dramatique expérience historique. Depuis cette date, tout le monde considère que la fonction principale des banques centrales est d'assurer la stabilité du système financier, ce qui implique d'assumer, en cas de panique absolue, un rôle de prêteur en dernier recours, consistant à créer les liquidités nécessaires pour éviter l'effondrement généralisé des établissements financiers. Il est essentiel de réaliser que cette conviction est partagée depuis la crise des années 1930 par l'ensemble des observateurs, quelle que soit par ailleurs leur position sur le New Deal ou les diverses formes d'État social mises en place aux États-Unis et en Europe à l'issue des crises des années 1930-1940. Parfois, la foi placée dans le rôle stabilisateur de la Banque centrale semble même inversement proportionnelle à celle mise dans les politiques sociales et fiscales issues de cette même période. Cela est particulièrement clair dans la monumentale « Histoire monétaire des États-Unis » publié en 1963 par Milton Friedman. Dans cet ouvrage fondateur, le chef de file des économistes monétaristes accorde une attention méticuleuse au mouvement court de la politique monétaire suivie par la Fédérale Réserve, étudiée notamment à travers les archives et les minutes de ses différents comités de 1857 à 1960. Sans surprise, le point focal de la recherche concerne les années noires de la crise de 1929. Pour Friedman, aucun doute n'est permis, c'est bien la politique grossièrement restrictive de la Fed qui a transformé le krach boursier en une crise du crédit et qui a plongé l'économie dans la déflation et dans une récession d'une ampleur inouïe. La crise est avant tout monétaire et sa solution l'est donc tout autant. De cette analyse savante, Friedman tire des conclusions politiques transparentes. Pour assurer une croissance paisible et sans à-coups dans le cadre des économies capitalistes, il faut et il suffit de suivre une politique monétaire appropriée permettant d'assurer une progression régulière du niveau des prix. D'après la doctrine monétariste, le New Deal et son florilège d'emplois publics et de transferts sociaux, mis en place par Roosevelt et les démocrates à la suite de la crise des années 1930 et de la Seconde Guerre mondiale, ne sont donc qu'une gigantesque fumisterie coûteuse et inutile. Pour sauver le capitalisme, nul besoin de welfare state et d'un gouvernement tentaculaire, il suffit d'une bonne Fed. Dans l'Amérique des années 1960-1970, où une partie des démocrates rêve de parachever le New Deal, mais où l'opinion commence à s'inquiéter du déclin relatif des États-Unis à l'égard d'une Europe en pleine croissance, ce message politique simple et fort fait l'effet d'une bombe. Les travaux de Friedman et de l'école de Chicago contribuent sans nul doute à développer un climat de méfiance face à l'extension indéfinie du rôle de l'État et à forger le contexte intellectuel menant à la révolution conservatrice de 1979-1980. On peut évidemment relire ces mêmes événements en se disant que rien n'interdit de compléter une bonne Fed par un bon État social et une bonne fiscalité progressive. De toute évidence, ces différentes institutions sont davantage complémentaires que substituables. Contrairement à ce que la doctrine monétariste tente de suggérer, le fait que la Fed ait effectivement été grossièrement restrictive au début des années 1930, comme d'ailleurs les banques centrales des autres pays riches, ne dit évidemment rien du tout du mérite et des limites des autres institutions. Mais tel n'est pas le point qui nous intéresse ici. Le fait est que depuis des décennies, tous les économistes, monétaristes, keynésiens ou néoclassiques, tous les observateurs, quelle que soit leur tendance politique, s'accordent à considérer que les banques centrales doivent jouer un rôle de prêteur de dernier ressort et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l'effondrement financier et la spirale déflationniste. Ce relatif consensus historique explique pourquoi toutes les banques centrales de la planète, aux États-Unis comme en Europe et au Japon, ont réagi à la crise ouverte en 2007-2008 en assumant ce rôle de prêteur et de stabilisateur. Si l'on excepte le cas de Lehman Brothers, en septembre 2008, les faillites bancaires sont restées relativement limitées. Cela n'implique pas pour autant qu'il existe un consensus sur la nature exacte des politiques monétaires non conventionnelles qui doivent être suivies dans de telles situations.